Alors, on dit bonjour à Clara Dupont-Monod. Voilà. Et les enfants avaient vraiment hâte de vous rencontrer. Donc, c'est l'école CAF de Chambéry, une école qui est à proximité. Vous avez mis combien de temps pour venir ? 5 minutes. Donc, ce sont des enfants qui ont... Voilà la maîtresse, Sophie Clavel-Georges. Alors, dans cette école, bon, la maîtresse va raconter, mais ils ont en partie lu le livre. Hein. Pas en partie, mais un bon début. D'accord. Donc, comment ça se passait la lecture ? Est-ce que c'était le soir
Alors, la lecture, ça se passait le matin à l'arrivée.
D'accord.
Et quand j'avais le temps de le faire aussi, parce que c'est assez compliqué. Et ça a été chronologique, mais comme ça, pendant plusieurs semaines.
Et sur une durée d'un quart d'heure
10 minutes.
10 minutes.
10 minutes.
D'accord. Et vous aimiez ce moment ? Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais enfant, la maîtresse lisait à 4h15 un livre jusqu'à 4h30 et on adorait. Et ça se répétait dans le temps, donc c'était vraiment, vraiment un moment attendu. Donc vous attendez la suite du livre.
Qui veut s'exprimer sur ce qu'il ressentait pendant qu'on faisait la lecture du matin ? N'ayez pas peur, il ne va pas en manger le micro. Hein.
Qu'est-ce qu'il a envie de dire ? Vous n'étiez pas réveillée ?
Non, ils ont peur du micro, mais ça c'est normal.
Non.
Oh. Léonie, tu veux dire quelque chose ?
Non. Moi, j'ai trouvé que le livre, il était très, très bien parce que, justement, ça expliquait les différences. Enfin, justement, comme le titre du livre le dit, comment on peut s'adapter en fonction de... Si on connaît quelqu'un qui est différent, comment on peut s'adapter ? Et du coup, c'est très bien, je trouve.
Moi, ce que je ressentais, en fait, c'était un peu dur pour les personnes qui ne pouvaient pas se bouger ou qui n'arrivaient à rien faire, qui étaient différentes des autres personnes, par exemple.
Tu veux dire quand on est très handicapé ?
Mmh. Ouais. Et c'était dur. Et ce que j'ai retrouvé sur ce livre, c'était très bien.
Qu'est-ce qui était très bien ?
Ça nous montrait la différence, plein d'autres choses.
Ça montrait comment le frère et la sœur ressentaient, pouvaient s'exprimer autour de ce qui se passait. C'est ça qui t'a plu ?
Oui.
D'accord. Est-ce qu'on a d'autres qui ont envie de... Oh, tout à l'heure. Tu veux dire ? Alors, est-ce que vous avez des questions ? Parce que là, le moment qu'on va passer ensemble... Ah oui, toutes les mains vont se lever. Vous allez profiter de ce moment de rencontre avec Clara pour lui poser toutes les questions, à la fois sur le livre, mais aussi peut-être d'autres questions. Hein. Et puis elle va répondre. Parce que déjà hier, on a passé une heure avec d'autres classes. Donc, on commence par là.
Pourquoi vous avez choisi les pierres comme narrateur de l'histoire ? C'est un peu étrange, parce que dans aucun livre, on a ça.
Justement parce que dans aucun livre on le faisait déjà, et ensuite quand on est dans ce paysage de montagne, mais c'est comme ici, on grandit avec les pierres qui sont quelque chose qu'on est habitué en fait à voir tout le temps, comme les arbres, et donc les faire parler c'est quelque chose qui semble à un moment presque naturel. Et puis ensuite moi j'aimais bien l'idée du mur avec les pierres parce que pour moi ça représente la famille. Ce sont des pierres qui sont serrées les unes contre les autres et qui se soutiennent. Et pour moi, la famille, c'est ça aussi. C'est comme un mur de pierre.
D'accord.
Alors, pourquoi vous avez eu l'idée de faire ce livre ?
Parce qu'à la base, c'est quelque chose qui est vraiment arrivé à ma famille. On a eu un enfant handicapé qui est né, qui n'a pas vécu très longtemps et qui est handicapé comme... l'enfant du livre, et c'est quelque chose qui m'a rendu tellement plus riche et tellement moins bête que je trouvais ça très étonnant que on fasse pas plus de place à ces gens différents, parce que ça vous oblige à oublier tout ce à quoi vous êtes habitué et à se mettre à la hauteur de quelqu'un qui ne réagit pas comme vous. Et c'est pas parce que quelqu'un est différent qu'il est moins bien, c'est exactement l'inverse, c'est précisément parce qu'il est pas comme nous qu'il est à mon avis plus intéressant. Et du coup, je trouvais ça... moi, j'en suis sortie encore une fois, beaucoup plus riche. Et j'avais très envie de faire un livre qui montre comment est-ce qu'un enfant qui naît dans une famille, et au départ, c'est un peu la catastrophe, et en fait, le frère, la sœur, il y a un troisième frère qui va arriver après, même les parents, sont obligés de se montrer, de s'adapter en fait à lui. Et ça les rend, quand on est obligé de s'adapter à quelque chose, ça vous rend plus intelligent.
Ça va ? Ta réponse ? Alors, une autre question ? Tu peux te lever, comme ça tu verras bien.
Vous avez mis combien de temps pour finir le livre ?
Alors, en général, moi, je ne suis pas très rapide. Je mets entre 3 et 4 ans pour faire un livre. Et celui-ci, je crois que j'ai mis 3 ans. C'est beaucoup. Oui, mais c'est normal. Quand on fait un roman, on ne fait pas un roman tous les 4 mois de façon facile. C'est quelque chose qui est long, c'est quelque chose qui est exigeant et c'est quelque chose qui est très rigoureux. Et il faut, c'est le temps long, la littérature. Ce n'est pas le temps rapide, comme aujourd'hui avec les réseaux sociaux ou les choses très, très rapides de commandes de consommation. C'est le temps long et c'est très bien.
Et est-ce que vous aimez, vous, les choses qui se font dans le temps long ?
Oui, plutôt.
Il y en a qui aiment.
Parce qu'on n'est plus habitué, on est plus habitué à la lenteur, en fait.
Moi, en fait, je préfère les romans longs que les romans courts parce que je trouve mieux, vu qu'on a plus d'informations sur l'histoire.
Oui, et en même temps, tu peux avoir des histoires courtes, des fois, qui sont tellement bien écrites, tellement bien fichues, qu'en fait, ça peut marquer comme un grand roman. Ça dépend, en fait. Ce qui est sûr, c'est que plus c'est pas parce que c'est court qu'on le fait plus vite. Un roman court, ça prend autant de temps qu'un roman long.
Alors, d'autres questions ? Oh, vous aviez plein de questions tout à l'heure. Alors, peut-être que vous pouvez expliquer comment vous avez travaillé sur le livre. Hein, qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez commencé à lire, écouter l'histoire ? Comment vous avez mis en forme, trouvé le moyen de imaginer une forme ? Allez, qui est-ce qui veut raconter ?
On a imaginé toute l'histoire dans notre tête. Qu'est-ce qui se passait, tous les détails.
Et puis après, au niveau de la production, comment vous avez fait ces petits carnets ? Racontez-nous un peu l'histoire. Les mains se lèvent. Allez, vas-y. On va partir du concret.
On a fait des haïkus parce qu'on avait découvert des haïkus et la maîtresse, elle nous avait parlé qu'on allait travailler sur le thème de la différence. Donc, quand elle a commencé à lire le livre, on a commencé à avoir plein d'idées sur la différence et on a commencé à écrire des haïkus de plus en plus. Oui.
Parce qu'en fait, le thème que tu travailles dans l'école était la différence.
Oui, c'est ça.
Tu veux en dire quelques mots,
Sophie ? En fait, c'est un hasard, mais on a travaillé conjointement à la lecture de votre roman sur un thème, le thème des différences, grâce au partenariat avec la bibliothèque, la médiathèque Jean-Jacques Rousseau, dans le cadre d'un parcours roman. Donc c'est un hasard parce que je n'ai pas choisi le thème de ce parcours. Et quand l'animatrice est venue nous apporter les 30 petits livres qui circulent encore dans la classe, et c'était le thème des différences. Donc on a été particulièrement nourris par ce thème, et par votre lecture, et par les leurs, qui étaient vraiment conjointes. Et donc ça leur a beaucoup, beaucoup plu, puis ça les a interpellés beaucoup. Voilà.
Alors qu'est-ce que vous avez envie d'en... Bon, je vais poser des questions. Qu'est-ce que vous avez envie d'en dire de la différence ? Est-ce que vous avez...
C'est que même si on a un handicap ou pas, on reste humain.
Tu as envie de dire autre chose ? Non.
Quelle que soit la différence, en fait, on est tous pareils au fond. C'est tous... même s'il y en a un qui n'a pas de bras, pas de jambes, au fond, il reste quand même un humain. Alors, il doit être traité de la même manière.
Moi, je trouve, on dit beaucoup, on est différent si on a un handicap, tout ça. Mais pour moi, ça veut dire quoi, être normal, alors? Enfin, pourquoi c'est pas l'inverse? Pourquoi ce serait pas être handicapé normal et être bien conçu, ce serait différent? Enfin, voilà.
Vous en parlez entre vous? Vous confrontez vos points de vue? Alors, qu'est-ce qui a envie d'intervenir un petit peu?
Moi, je pense que, en fait, quand on est différent, ça n'a pas d'importance. Tout ce qui est important, en fait, c'est se connaître, ne ouais. Pas détester, s'aimer, connaître l'amour, par exemple, des gens, se connaître par cœur, par exemple, quand on est amis ou des choses comme ça. Ça n'a pas d'importance si on est handicapé ou noir, jaune, blanc, ça n'a pas d'importance pour moi.
Ils sont tous comme ça, les élèves à Chambéry ou quoi?
Ah, mais c'est une classe exceptionnelle.
Ah, bravo, hein, c'est super.
Alors, qu'est-ce qui a envie de dire des choses encore?
Bah, moi, justement, je trouve que les gens qui sont différents, eh ben, ils sont justement uniques. Et bah, parce que, eh ben, bah, y a, enfin, ceux qui sont pas handicapés, bah, qui sont pas handicapés, bah, je sais pas comment dire, mais bah, c'est pas les mêmes que ceux qui sont handicapés, parce que par exemple, ceux qui n'ont pas de bras ou pas de jambes, et bah, ils arrivent à s'adapter, alors que nous, si on a des jambes et tout, et bah, on arrive, enfin, on n'essaye pas forcément de s'adapter. Et bah, tous les gens, enfin, qui sont handicapés, et bah, ils arrivent souvent à s'adapter.
Oui, ça demande beaucoup de courage, en fait, d'être à un moment d'être handicapé, alors que nous, on fait pas, on n'a pas besoin de ce courage-là, parce que ça nous semble normal.
Et est-ce qu'il y a des moments où vous avez dû vous adapter à des situations? Est-ce que vous en avez, est-ce que vous avez envie de raconter peut-être une situation où vous avez fait l'effort de vous adapter?
Bah, on a tous fait ça au moment du Covid. On a tous dû s'adapter. On a tous, même si on ne voulait pas, c'était un peu énervant.
C'était un peu énervant. C'était difficile. Il y en a?
En fait, on s'adapte tous les jours parce que en fait, y a dans la société, il y a des règles partout, donc on s'adapte toujours.
Essaye de respecter. Alors, vas-y, tu voulais ? Non ? Qui est-ce qui a envie de prendre le micro ? Une situation, vous êtes adapté, peut-être à l'école ou dans la vie ou...
Moi, personnellement, j'ai dû m'adapter quand mes parents ont divorcé et c'était dur au début parce que j'étais très petite et du coup, bah, j'ai dû m'adapter à pas toujours les voir et c'était difficile du coup. Oui, puis triste, et du coup, bah, voilà.
Il y en a d'autres qui ont envie de... Voilà. Tu peux te lever comme ça.
Une fois, moi aussi, je me suis adaptée, il y a un an à peu près. Ma sœur, elle était allée à l'hôpital pendant un mois, et bah, je pouvais pas l'appeler ni la voir, et j'ai dû m'adapter pendant un mois, même si c'est pas très long, mais... J'étais habituée à la voir tous les jours.
Et alors, tu étais triste? Alors, est-ce que vous avez des questions maintenant à poser à Clara sur comment elle a écrit son livre, si elle en a écrit d'autres? Il y a des questions?
Est-ce que vous avez écrit d'autres livres, mais pas sur le thème de la différence, sur d'autres thèmes?
Tout ce que j'ai écrit jusqu'à présent était moins, c'était pas aussi marqué que ça. Moi, j'ai beaucoup écrit sur le Moyen-Âge, parce que j'adore ça. Donc, une histoire d'une reine, l'histoire d'un chevalier. Mais c'est vrai, quand on regarde bien ce que j'ai fait jusqu'à présent, à chaque fois, c'est des personnages qui sont, en marge. Mon premier roman, par exemple, c'était pas du tout le Moyen-Âge, mais mon tout premier roman, quand j'étais venue d'ailleurs au festival du premier roman de Chambéry, c'était l'histoire d'une petite fille qui se réveillait un matin avec des ailes dans le dos. Et elle ne sait pas d'où ça sort, ça lui fait pas mal, mais c'est quand même assez inconfortable. Et en plus, elle est furieuse parce que ça ne marche pas, c'est-à-dire qu'elle ne peut même pas voler. Donc, elle s'entraîne au bord de la mer, elle court sur la plage quand tout le monde est couché ou très tôt le matin. Et en fait, ses ailes, elle n'arrive pas à ce que ses ailes, si elle en a, autant que ça serve. Et ça, il se trouve que ça ne sert même pas à voler. Et du coup, déjà, en fait, c'était déjà une forme d'enfance différente, finalement. Et après, on se rend compte que quand un écrivain fait des livres année après année, en fait, je pense qu'on écrit toujours le même livre, même si le sujet n'est pas pareil. En fait, un écrivain, il a des obsessions et en fait, c'est toujours les mêmes qu'on retrouve.
Et quel est le titre de ce roman ? La petite fille avec
ouais,
des ailes.
Et ben, il s'appelle, c'est le prénom de la petite fille et ça s'appelle Eova Luciole. Et c'est son surnom, en fait. On l'appelle la Luciole. Et ma meilleure amie, d'ailleurs, elle a donné, quand elle a eu une petite fille, elle l'a appelée Eova.
Extraordinaire.
C'est trop beau, hein ?
Oh oui, ouais. C'est génial.
Et je crois qu'il est plus édité. Ouais. Alors on peut le trouver d'occasion, alors à moins que là, avec S'adapter, ils aient décidé de le rééditer. C'est chez Grasset. Et c'était en 98, ce qui ne nous rajeunit pas.
Oh là là.
Ou 99, je crois. Ils n'étaient même pas nés. Et en fait, les enfants, je me rappelle, on avait fait plein de scolaires et les enfants adoraient cette histoire. Parce qu'il y a un côté aussi un peu conte, hein, comme il y a déjà un peu dans S'adapter.
Oui. Et est-ce que c'est la petite fille de l'histoire de S'adapter qui prenait des ailes pour...
C'est possible, parce qu'on est, aussi un peu dans le... On est dans ce registre-là. Hein.
Une fois qu'elle s'est envolée, elle a écrit l'autre livre.
Oui, alors je... Mais vous allez rire, mais je ne me souviens plus de la fin. Il faut que je le relise. Je ne sais plus, je crois que ça se termine bien, parce que me connaissant, je ne peux pas faire une fin triste, mais je crois que ça se termine bien. Mais elle ne le vit pas du tout de façon catastrophique. Hein. Elle le cache quand même, mais sa mère est au courant. Et elle se débrouille avec ça.
Ça vous plairait de connaître l'histoire ?
Oui.
Ah ouais.
Oui.
Alors, allez, on reprend les questions.
Comment vous avez décidé d'écrire des livres ?
On ne décide pas, en fait, d'écrire des livres. On n'a pas le choix. On fait ça parce que, comme quand tu as soif et que tu bois un verre d'eau, c'est quelque chose de naturel, d'indispensable. On ne se lève pas un matin en disant « Tiens, dans la vie, je vais être écrivain. » Tu le fais parce que tu ne peux pas ne pas le faire. C'est quelque chose qui s'inscrit en ourlet de ta vie et tu vas faire avec et ça fait partie de toi. Donc, en fait, on ne décide pas.
Il y en a une... Est-ce que c'est dur d'écrire des livres ?
Alors oui, c'est dur et en même temps c'est très heureux, en même temps c'est merveilleux, c'est quelque chose qui rend très heureux et en même temps il faut vraiment être très précis, très exigeant, il faut accepter de passer 3 semaines sur une phrase parce que tu ne trouves pas le mot juste, parce que ça ne te satisfait pas, mais en même temps tu as le temps de le faire. C'est ça où c'est important le temps long de l'écriture. Il faut accepter, des fois ça ne vient pas, donc il faut laisser poser 15 jours, tu reprends au bout de 15 jours, tu n'arrêtes pas d'y penser. C'est quelque chose de long, mais c'est ça qui est bien. Et le jour où tu trouves le mot juste, ça te rend très très content. Donc il faut accepter d'avoir ça qui occupe ta vie. Mais en même temps c'est merveilleux parce que tu vois l'histoire qui naît, tu vois les personnages qui naissent, tu apprends à vivre avec eux, ça devient des amis, tu les retrouves quand tu te remets à écrire. C'est une vraie aventure d'écrire un livre. Mais ça ne se fait pas vite.
Il faut accepter le temps.
Ah oui.
Quand avez-vous commencé votre carrière d'écrivaine ? Et est-ce que vous arrivez à vivre de ça?
Alors maintenant, oui, je pourrais arriver parce que s'adapter, c'est beaucoup, beaucoup vendu. Donc, je pourrais en vivre. Mais je ne sais pas si ça me rendrait très heureuse de vivre uniquement de ce que j'écris. Il se trouve que par ailleurs, moi, j'ai un travail, donc dans un bureau, avec des équipes, avec des gens, avec des horaires, avec des réunions. Et j'aime bien ça. Et donc, si je devais passer toute ma journée à écrire un livre et à m'enfermer un peu dans ma tête, à me demander quel est le mot juste, justement, à passer 3 semaines sur une phrase, je pense que, je ne sais pas si c'est bien d'avoir quelque chose à côté qui me remet dans la vraie vie. Et donc ça, ce n'est pas plus mal.
Oui, mais est-ce que pendant la réunion, il n'y a pas le mot juste qui arrive à un moment donné ?
À ce moment-là, non, mais justement, à ce moment-là, c'est précisément parce que j'y pense plus et que j'ai d'autres préoccupations que du coup, ça va être plus simple de le trouver. C'est parce que je m'en détourne. Comme c'est une affaire d'obsession, c'est bien de s'en détourner un peu. Ça me remet dans la vraie vie quand même. Je crois qu'il y avait une question là-bas de la petite Acaro, avec la jolie robe Acaro.
Est-ce qu'il y aura une suite ?
Non.
Tu aurais aimé ? Attends, il faut finir le roman d'abord. Hein. Alors, qui est-ce que j'ai jamais entendu ?
On a du temps. C'était quoi votre livre préféré ?
Alors, aucun, parce que chaque fois que je les relis, je trouve que j'aurais pu faire mieux.
D'accord.
Je trouve pas ça très bien, donc je me dis, mais là, pourquoi j'ai pas écrit ça ? Mais là, ça va pas. Donc, en fait, j'arrête de les relire et il n'y en a aucun qui est mon préféré.
Ce sera le prochain.
Voilà, c'est ça.
Combien de livres t'as fait en tout ?
Eh bien, je ne sais pas, il faudrait compter, je crois, 6 ou 7 ? Je crois 6 ou 7. Ah, 9, ah bon, d'accord. 9, ah bon, bah 9.
Il y en a qui tiennent la comptabilité.
Ouais, c'est ça.
Et vous savez dans combien de langues il a été traduit ? Ça n'a pas été dit ?
19.
19 langues. Vous imaginez ? Vous connaissez 19 langues ?
Est-ce que vous allez faire des nouveaux livres, des autres livres ?
Normalement, oui, mais on ne sait jamais quand on est dans un livre. Et là, j'accompagne encore toute la tournée de s'adapter. Mais oui, je pense. Mais après, je ne sais pas du tout quel sujet. Je ne sais pas du tout encore. Là, je suis encore avec ce livre-là. Donc, quand on est avec un livre comme ça, on n'a pas de place dans la tête pour un autre livre.
Bah, vous avez quel âge quand vous avez écrit votre premier roman ?
Eh bien, je devais avoir 25 ans, c'est ça ?
Oui, il me semble.
Ouais, 20-25, quelque chose comme ça. C'était tôt, hein ?
Oui. Et est-ce qu'il commençait déjà ? Il a mis longtemps à arriver ? Enfin, l'envie d'écrire, est-ce qu'elle a mis longtemps à arriver ? Parce qu'on s'est mis, vous êtes mis à 25 ans.
Mais l'envie d'écrire, elle est là. Moi, j'écris depuis que je suis toute petite. C'est quelque chose qui fait partie de votre vie. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la décision. Il n'y a pas de décision. Petite, j'écrivais des poèmes. Quand je vivais quelque chose, j'en écrivais un paragraphe dans ma tête. Je lisais beaucoup parce qu'on ne peut pas écrire si on ne lit pas. Ça, c'est très important. C'est comme un musicien. Il ne peut pas faire un opéra ou un concert s'il n'écoute pas de musique. Donc, il faut lire. Et je lisais tout le temps. Donc, c'est
dans la vie.
Oui, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la vie de bureau que j'ai, c'est dans l'édition. Donc, je fais faire des livres aux autres. Il se trouve que je chronique des livres à la radio. J'écris moi-même des livres. Donc, le livre, il est tout le temps dans ma vie. Ouais.
Et est-ce que vous auriez aimé rencontrer un auteur quand vous étiez enfant ? Ou est-ce que vous en avez
rencontré ? Mais il était mort.
Ah.
C'était les auteurs, les grands auteurs, quoi. Émile Zola, moi j'adorais Émile Zola. J'adorais Arsène Lupin, j'adorais les BD. J'aurais bien aimé, mais ils étaient un peu tous morts.
Alors nous, on a la chance, hein, vous avez la chance de rencontrer une autrice. Des questions ? Tu voulais ? Qui est-ce qui a encore une question ?
Est-ce qu'il y a un livre où la fin vous l'avez fait triste ou ça finit mal ?
Je crois qu'il y a Nestor qui se termine pas très bien. J'ai fait un livre à un moment sur un monsieur obèse, un monsieur qui pèse 130 kilos, parce qu'un jour j'étais dans le bus et que j'avais vu monter
un monsieur très très gros dans le bus, et j'avais été très frappée de voir que tout le bus le regardait de façon méchante. Et quand quelqu'un est obèse, c'est un des rares handicaps que je connaisse où en fait on accuse un peu la personne d'être handicapée. C'est-à-dire que si tu croises un aveugle, il ne te viendrait pas à l'esprit de lui reprocher d'être aveugle. Pareil pour un sourd, pareil pour quelqu'un en chaise roulante. Alors que l'obèse, les personnes obèses, il y a toujours un peu l'idée « Ah bah t'as qu'à manger moins. Ah bah c'est un peu de ta faute. Ah bah t'as qu'à faire un régime. » Et je trouve ça très injuste et très dur. Et or, ce monsieur qui avait couru après le bus, non parce qu'ils ne peuvent plus courir, parce qu'ils sont trop gros, il avait quand même dû faire un effort énorme pour monter les petites marches du bus, pour se tenir droit dans le bus, parce que le bus, ça bouge. Et donc, en fait, il y avait des tas de petits actes courageux qu'il avait faits pour se retrouver dans ce bus. Et malgré tout, il y avait quand même cette idée de méchanceté autour de lui. Et ça m'avait tellement marqué que j'ai fait un roman sur un monsieur obèse, qui s'appelle Nestor. Et il y a une fin triste, mais il y a trois fins. Donc j'avais fait trois fins, dont une triste. Mes deux autres gays, enfin ça va. Nestor s'en sortait bien, alors qu'il s'en sort pas trop bien dans la première. Mais donc voilà, c'était avec Nestor, j'ai fait ça.
Et votre dernier roman pour l'instant que vous avez écrit, c'est lequel ?
Celui-là ?
Alors, d'autres questions ? Non ? Plus rien ? Est-ce que vous avez vu, comme Clara, des situations, par exemple dans la rue ou dans votre classe, qui vous ont interrogé puis qui vous ont fait dire « mais moi, ça ne me plaît pas » ou « j'aime pas ça » ou « je vois que la personne, elle fait des efforts, mais on ne le voit pas ». Vous n'avez pas des petites... Non ?
Ben moi, c'est pas trop ça. C'est qu'un jour, j'étais dans la rue et j'ai vu une dame sans bras. Et il y a quelqu'un qui passe et qui dit « Maman, regarde, elle a pas de bras. » Et du coup, moi, ça m'a fait un peu de peine parce que ça, c'est... Bah, faut le garder pour soi. C'est pas très gentil.
La maman a expliqué ? La maman, elle a dit...
Je sais pas.
Moi, j'ai mon père, il travaille avec des handicapés, il est surveillant de nuit et maintenant il va même s'occuper de jeunes dans des internats, tout ça. Et la dernière fois, il avait accompagné un handicapé et du coup, j'étais avec lui. Et il y avait tout le monde qui le dévisageait, il disait « Oh, il est bizarre ». Il y avait même quelqu'un qui avait dit « On dirait un monstre » et moi, ça m'avait vraiment blessée. Et mon père, il y avait même en fait des garçons normaux. Il se faisait regarder bizarrement parce qu'ils avaient un mauvais caractère ou ils se faisaient insulter parce qu'ils ne vivaient pas avec leurs parents. On se disait que c'était de leur faute, c'est sûrement à cause d'eux. Ils ont dû leur causer des problèmes alors que c'est pas eux qui ont voulu finir dans des internats ou dans des familles d'accueil. Et du coup, quand j'ai vu ça, ça m'avait fait mal.
Oui, tu en as parlé avec ton papa, vous avez réfléchi.
Et du coup, la dernière fois, il avait ramené... une étudiante de 20 ans, elle était venue manger chez nous et elle nous avait dit, elle avait dit que c'était beaucoup mieux que manger là-bas, là où elle était toute seule. Et en fait, elle avait arrêté le lycée parce qu'on l'a insultée beaucoup à cause d'un petit problème mental qu'elle avait. Maintenant, elle va mieux, mais ça lui pèse quand même. Mmh. Du coup.
En tout cas, tu étais sensible à tout ça. Mmh.
Bah moi, ma sœur, elle est handicapée et tout le temps, quand on sort des fois, bah les gens la regardent tout le temps bizarrement, comme si elle n'était pas comme nous.
Et toi, tu vois plus ça ?
Non.
Toi, c'est ta sœur aussi.
Oui.
Bah moi, par exemple, mon frère, il a des troubles et avant... quand il était un peu plus petit, il se faisait harceler parce que il y a des gens qui disaient t'es pas comme nous, t'as un problème, t'es bizarre, parce qu'il avait des troubles. Mais moi c'est comme si c'était une personne normale.
Mais du coup, es triste quand tu entends ça?
Bah, j'ai une petite sœur, moi, et elle a 8 ans. Et quand elle était née, bah, son bras s'est enlevé du corps. Tout. Et après, quand ils l'ont remis, bah, ils ne l'ont pas remis à l'endroit. Donc, en fait, quand, par exemple, elle veut faire comme ça, bah, elle n'arrive pas, donc elle met son bras comme ça. D'accord. Et bah, maintenant, elle va mieux. Et elle fait de la je sais pas comment ça s'appelle pour remettre son bras à l'endroit.
Ah, de l'ergothérapie, de la kiné.
Je sais pas. Oui, voilà. Et par exemple, quand je suis allée quelque part avec ma mère et ma sœur, bah à chaque fois qu'elle veut faire quelque chose avec son bras, bah elle n'arrive pas. Donc ma mère, faut qu'elle l'aide à faire quelque chose.
Et toi, est-ce que tu l'aides aussi ?
Oui. Des fois, par exemple, quand on marche dans la rue et qu'elle veut prendre quelque chose dans son sac ou, je sais pas, un truc, bah, elle n'arrive pas et les gens la regardent bizarrement.
C'est ta grande sœur ou ta petite sœur ?
Ma petite sœur, elle a 8 ans.
Est-ce qu'il y a des histoires que vous l'avez fait mais ils ne sont pas vraiment vrais ? Est-ce qu'il y a des histoires que vous l'avez fait mais ils ne sont pas vraiment vrais ?
Ah oui, j'ai tout inventé ?
Oui.
Ah oui, jusqu'à présent, c'était que ça. Là, c'est vraiment la seule fois où je prends un petit peu de ce qui s'est passé dans la vraie vie. Mais sinon, quand je fais le Moyen-Âge, j'invente tout. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que j'entends là depuis tout à l'heure, c'est quand même l'idée de la fratrie. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est des frères et des sœurs qui sont très vigilants, vous protégez beaucoup la petite... Enfin, comment elle s'appelle ? Celle qui a un t-shirt Adidas. C'est toi qui as ta petite sœur handicapée, ou ton frère handicapé ?
Ma sœur.
Ta sœur, ouais, toi c'est ta sœur, toi c'est ton frère. Oui. Voilà. Et à chaque fois, c'est les frères et sœurs. Qui vous avez toujours un œil sur la grande sœur ou la petite sœur ou le frère. Et je trouve que la force de la fratrie, elle est là aussi. Non, elle se met en place. Mais c'est tout le principe de la cadette qui, dans le livre... Vous n'avez pas encore lu, mais la cadette, dans un premier temps, elle est en colère, elle est furieuse, elle trouve ça injuste et elle en veut au petit frère qui est handicapé. Mais après, elle bascule et elle le porte à bout de bras. Enfin, elle porte sa famille, elle a un état de vigilance. Mais je vois quand même cette espèce de maturité que ça donne, du regard d'autrui, qui comprennent instantanément, de la blessure que ça peut créer. C'est vraiment une... Il y a une longueur d'avance, quoi.
Oui. La différence, elle se voit dans le regard de l'autre, quoi. Vas-y.
Vous avez dit que l'idée de ce roman, c'est parce qu'il y avait quelqu'un dans votre famille qui était né avec un handicap. Alors, est-ce que le personnage de la cadette, c'est vous quand vous étiez enfant ou ça...
Alors, on dit souvent que les gens souvent me disent c'est la cadette, c'est moi parce que c'est la seule fille. Mais en fait, non. En fait, moi, j'ai les trois personnages que j'ai pris me servent à décrire un sentiment. Dans la vraie vie, c'est mélangé. Ces trois sentiments-là, on les a mélangés. La littérature, c'est pratique parce qu'on peut faire des petits tas. On peut classer. Mais en vérité, c'est mélangé dans la vraie vie. Et moi, le petit frère que j'ai eu, j'étais comme l'aîné, très protectrice avec lui. Comme la cadette, j'en ai voulu. Et comme le petit dernier, j'ai fait avec. Donc, de toute façon, c'est mélangé. Je pense que dans la vraie vie, on passe par toutes les couleurs. Mais c'est ça qui rend vraiment, encore une fois, plus riche. Et, oui.
Moi, un jour, c'était le premier jour où mon père il avait ouvert son restaurant. Et il y avait quelqu'un de pauvre et qui avait un problème d'handicap. Et ce jour-là, en fait, il était juste venu devant le restaurant de mon père. Et il a un peu demandé de la nourriture. Mon père, il lui a donné... il avait très mal au cœur, en fait. Et chaque fois, en fait, il a commencé un peu à lui donner de la nourriture. Et après, il a... Après, on ne sait pas, il est allé où.
Bah, c'est très généreux.
Tu as été sensible, en tout cas, au fait que ton papa, il lui donnait à manger.
Ouais.
Est-ce que vous allez encore écrire des livres ou c'est votre dernier livre ?
Ah non, j'espère que ce n'est pas mon dernier. Non, je pense que je vais en écrire d'autres.
Bah aussi, il y a mon frère qui a 6 ans et qui a des problèmes de cœur. Aussi, en fait, il avait avalé une chose, un petit truc qu'il avait avalé. Et ils l'ont amené à l'hôpital. Et la chose, après, en fait, ils l'ont dit d'aller aux toilettes. Et il était enlevé quand il a fait... Oui, voilà, ses besoins. Mais après, quand il est allé à l'hôpital, ils ont dit qu'il avait un problème de cœur à cause de ça. Et il n'arrive pas bien à respirer. Et en fait, une nuit, j'avais pleuré, moi, parce que j'étais trop triste pour mon frère.
Moi, j'ai eu ma grand-mère, elle a eu il n'y a pas longtemps, enfin l'année dernière, un cancer du sein. En plus, elle a eu le Covid, mais fort, donc on peut dire qu'elle était au bord de la mort. Mais elle a réussi à y survivre, et heureusement. Et après, elle a fait une opération, du coup, maintenant elle n'a qu'un seul sein. Et du coup, elle habite en Algérie, elle est venue pendant les vacances, mais quand elle est venue, il y avait tout le monde qui l'a dévisagée. Parce qu'elle avait un seul sein. Et moi, ça me faisait mal. Parce que j'en avais marre que les gens, ils aimaient trop juger les gens sur leur physique. Je veux dire, pourquoi si t'as un physique différent, tu devrais être bizarre ou un monstre. Enfin, pour moi, ce sont les gens qui osent juger sans savoir qui est la personne. Ce sont eux les vrais monstres. Hein. Je suis désolée, c'est vrai.
Moi je voulais dire que en fait il y a un an aussi il y avait ma marraine, elle devait avoir une petite fille et moi j'étais contente et en fait quand elle devait accoucher elle a failli mourir parce qu'en fait je sais pas trop exactement mais en fait elle a failli mourir et moi ça m'a fait beaucoup de peine et en fait moi quand ils m'ont dit ça, j'ai eu peur parce que je me suis dit, ça se trouve, c'est dans la situation où on doit... Enfin, parce qu'il y a des gens, quand ils doivent accoucher, ils ont, par exemple, un problème ou quelque chose comme ça, ils doivent choisir soit eux ou soit le bébé. Et du coup, j'avais pas envie de perdre ma petite cousine. Et aussi, j'avais pas envie... de perdre ma marraine aussi, mais maintenant ça va, mais elle avait décidé de refaire un bébé et je sais que il y a pas très longtemps elle a re-eu ce problème et elle était restée pendant longtemps à l'hôpital là apparemment elle doit rester chez elle et du coup elle est toujours un peu en danger, mais ça va un peu.
En tout cas, ça montre que tu te fais du souci pour les gens qui t'entourent. Alors, il y a plein de mains qui se sont levées.
Vas-y. Moi, mon grand frère...
Maintenant, ce serait bien qu'on se concentre sur le débat qui est un débat littéraire aussi, hein,
Alors, sur le livre.
Combien il y a de pages au total, le livre ?
Eh bien, ça, il faut demander à la dame derrière, là, avec les lunettes, parce qu'elle l'a avec elle, voilà. Voilà.
Ah, et alors, vous en avez lu 40.
C'est le plus long livre que vous avez fait ?
Non, il y a des livres qui sont plus longs. Celui-là, c'est un des plus courts.
Le livre. Est-ce que vous allez réécrire des livres sur la différence ?
Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout si... Bah, de toute façon, la différence, je pense qu'elle est... comme j'ai dit tout à l'heure, elle est là un peu tout le temps. Mais je ne sais pas du tout... Peut-être que j'aurais envie de faire quelque chose de complètement différent... ou au contraire de très très semblable, je ne sais pas du tout encore.
Alors, est-ce qu'on demanderait aux adultes qui sont là s'ils ont des questions à poser, hein? Et puis après, vous reprendrez, vous, hein? Est-ce qu'il y a des questions que vous avez envie de poser?
Bonjour. Estimez-vous qu'il vous a fallu du courage pour écrire ce livre, compte tenu du contexte familial que vous avez évoqué ? Estimez-vous qu'il vous a fallu du courage pour écrire ce livre, compte tenu du contexte familial que vous avez évoqué ? Et au sortir du livre, lors de son édition, quel sentiment avez-vous éprouvé ?
Alors, je pense qu'il faut du courage, en effet. Mais cela dit, je pense qu'il faut quand même, il faut du courage déjà pour faire un roman. Et qu'on peut même le voir à l'envers, c'est-à-dire que les romans qui, à mon avis, mais ça c'est vraiment un jugement purement personnel, hein, les romans qui sont entre guillemets ratés sont ceux où l'auteur n'a pas été courageux, donc est resté tranquillement dans quelque chose de confortable. Mais ça c'est une question de goût personnel, hein. Moi j'adore les romans qui me font réfléchir, qui me remuent, qui me laissent pas en paix, auxquels je pense après, les romans qui ont fait naître des émotions. Or, pour faire naître une émotion, il faut quand même décider soi-même d'avoir été explorer des zones d'émotion, justement, où on n'aurait pas forcément envie d'aller. Et il faut aussi avoir fait l'effort de chercher le mot juste, toujours cette quête du mot juste. Et pour ça, il faut une forme de courage parce que, quelque part, c'est un peu pas facile, mais c'est très facile, si oui, de se dire, bon, bah... l'histoire là, d'un enfant handicapé qui arrive dans une famille, il y a déjà tellement d'émotions à la base que le job est fait. Vous voyez, donc je vais faire 3 scènes où on a envie de pleurer, hyper facile. Il est question d'enfants, en plus d'enfants morts. Bon, le truc, vous voyez, easy en fait. Donc en fait, c'est toute la difficulté, elle est justement de ne pas céder à la facilité. Et donc oui, c'est une forme de courage. Mais en revanche, par rapport au contexte familial, je ne sais pas, parce que moi, j'ai un souvenir très heureux d'être revenue sur cette histoire, d'avoir fait ressurgir cet enfant qui n'est plus là. Je pense que quand on a perdu quelqu'un, on continue à vivre avec lui. En fait, je pense qu'il y a une différence entre vivre sans quelqu'un et vivre avec l'absence de quelqu'un. Ce n'est pas tout à fait pareil. Et donc, de vivre avec l'absence de quelqu'un, c'est encore une forme de présence et que donc je ne sais pas si c'est lié à la mentalité des montagnes, en tout cas des Cévennes ou de la culture, de l'éducation que j'ai reçue, mais c'est pas parce que quelqu'un n'est plus là que vous vivez sans lui. Et je pense aussi que l'oubli est une forme de deuxième mort et que la littérature le sauve de ça. Donc de retrouver ce petit fantôme, ça a été très heureux. J'ai pas du tout, moi j'étais très heureuse d'écrire ce livre et ma famille en question était très heureuse aussi. Ça remue, bien sûr que ça remue, mais sur fond de grande joie. Alors après, il se trouve que le chemin qu'a fait s'adapter, le fait d'avoir eu des prix littéraires, de se vendre beaucoup, c'est quelque chose qui vous rend encore plus content. Parce que c'est là où vous vous dites, c'est quand même une histoire magnifique. Donc, partir d'un petit être au fin fond des Cévennes et puis de voir l'impact, c'est génial. Donc on est quand même dans une joie commune qu'on savoure, ouais, partagée.
Partagée dans la famille.
Oui. Ouais.
Et est-ce que dans la vraie vie, quand vous étiez petite, vous habitez dans les Cévennes? Ou c'est juste pour le livre?
Non, alors j'habitais pas au sens littéral, mais ma famille vient de là-bas et donc moi j'y allais toutes les vacances et dès que je pouvais. Moi j'habitais à Paris et j'étais très malheureuse à Paris d'ailleurs et je suis toujours malheureuse à Paris. Mais j'ai vraiment pour le coup grandi avec ces montagnes et mes parents habitent là-bas, ma famille vient de là-bas.
Vous avez dit que vous habitez à Paris, mais vous ne l'aimez pas. Pourquoi? Pourquoi vous...
Parce que je fais un travail que je ne peux faire qu'à Paris. Ah, okay. Et donc, je peux pas. Je fais partie des gens...
Pas de télétravail.
Non, bah, le télétravail, c'est compliqué. Parce que quand vous travaillez avec un auteur ou un écrivain pour l'aider à faire son livre, en visio, c'est quand même compliqué. Il faut quand même un contact humain. C'est un métier de matière vivante, de dialogue, de voilà. Et puis par ailleurs, le métier d'éditrice, vous avez quantité de... Il faut que vous fassiez une couverture de livre, il faut qu'on parle de contrat, il faut... Tout ça, on peut faire du télétravail de temps en temps, mais globalement, c'est quand même pas le sel du métier.
Ah, moi, j'avais une question. Le titre du livre, est-ce que c'est vous qui l'avez choisi ou est-ce que c'est l'éditeur?
Non, c'est moi et l'éditeur était contre.
Souvent, il y a des accords.
Ouais, et je ne me suis pas garée en disant si, c'est ça. Et voilà, je ne regrette pas du tout.
Et lui, il proposait quoi?
Alors, rien, justement. Donc, ça me faisait bien marrer. Il me disait, oui, s'adapter, c'est un peu... Il me disait, c'est un peu sec. Mais moi, je lui disais, oui, mais moi, j'adore les titres en infinitif, en verbe infinitif. J'adore ça. Et j'adore aussi les titres en forme de phrase. Moi, ça m'ouvre des histoires. Donc s'adapter. C'était pas du tout un combat. Hein, je l'ai convaincu, mais je lui ai dit, mais s'adapter, ça, en fait, c'est valable pour l'enfant comme pour les autres.
Pour tous.
Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, il y a les normaux entre guillemets qui doivent s'adapter à un inadapté et un inadapté qui, malgré lui, doit quand même s'adapter aux adaptés. Donc en fait, c'est valable pour tout.
Oui.
Non, j'ai hésité avec le premier titre que j'avais, c'était l'inadapté, et en fait, c'est trop difficile à dire.
Ouais.
L'inadapté, c'est... Et par ailleurs, ça ne concerne que l'enfant.
Oui, oui, oui.
Donc, il n'y avait pas cette portée un peu universelle de s'adapter. Vous voyez, quand il y en a un qui va... Quand tu parles du Covid,
tout le monde.
Y a plein... Oui, en fait, il y a une transposition qui est possible avec s'adapter.
Oui. On a vu comment ça fonctionnait avec les enfants. Oui, oui. Est-ce qu'il y a encore des questions? Alors, on donne la parole aux grands? Ah, bah tiens.
Bah, dans le livre s'adapter, bah, ça parle aussi de l'écriture en braille. Et est-ce que vous avez déjà touché du braille?
À toucher du braille, oui, mais je ne le lis pas.
Oui.
Mais j'aimerais bien. C'est comme le langage des signes. J'adore regarder deux sourds ou deux muets ou deux sourds-muets qui parlent avec le langage des signes. Je trouve que c'est de la danse des doigts. C'est trop beau, ouais.
On voit des fois dans les musées où on peut toucher. Ah, par rapport au braille. Hein, sur les boîtes de médicaments.
Oui, c'est vrai, il y a du braille. Et des fois sur les touches d'ascenseur, voilà. À côté des boutons d'ascenseur pour qu'ils se repèrent.
Oui, oui. Bonne observation. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Sur le livre. Comment avez-vous eu l'idée de mettre du braille?
Bah ça s'est vraiment passé. C'est-à-dire qu'au début, quand mon frère est né, on a pensé qu'il était que aveugle. Et du coup, mes parents avaient dit, bon, bah, c'est super parce que vous allez apprendre le braille et vous serez les seuls dans la cour de récré à savoir jouer aux cartes en braille. Donc ça, c'est vrai, pour le coup. Donc je n'ai pas eu à aller chercher très loin.
Il y a des jeux de société pour les aveugles aussi?
Oui, bien sûr. Oui, oui, oui.
Merci. Est-ce que, avant de vous lancer dans l'écriture de ce qui est une sorte d'autofiction familiale, vous en parlez aux autres membres de la famille, vous leur demandez leur accord ou bien pas du tout?
Alors non, il faut jamais demander l'accord de quelqu'un avant d'écrire un roman, jamais, parce qu'il va vous dire non. Alors c'est plus un roman qu'une autofiction familiale justement. C'est ça qui m'a un peu sauvée. C'est-à-dire que dedans, il y a quand même quantité de choses que j'ai inventées. La grand-mère est inventée, la fratrie n'est pas la même que la mienne. Il y a des tas de choses inventées, c'est vraiment un roman. Néanmoins, je les ai prévenus, je leur ai dit je vais écrire dessus, avec l'idée de départ qui sera la naissance d'un enfant handicapé, mais racontée par la fratrie. Et moi, à la base, c'était quand même la fratrie qui m'intéressait. Le handicap de l'enfant, certes, il est présent, etc., mais c'était d'abord la fratrie comme thème littéraire, qui d'ailleurs est assez peu exploité, qui m'intéressait vraiment. On a beaucoup de choses, des parents vers les enfants ou des enfants vers les parents, mais pas tellement la fratrie, alors que je trouve que c'est un thème magnifique. Donc, je les ai prévenus et je leur ai fait lire avant de le publier parce que je ne voulais pas qu'ils soient mis devant le fait accompli, parce que ça me gênait quand même. Moi, je n'aurais pas aimé qu'on le fasse avec moi. Donc, je leur ai donné le manuscrit en leur disant « Si vraiment il y a des choses qui vous gênent, évidemment que je vais les changer. Le but n'est pas de vous mettre mal à l'aise. Néanmoins, ça reste un roman et un geste créatif. Donc, on ne commence pas à avoir une liste de doléances sur le mode « ça ne s'est pas passé comme ça ». Ça, non, puisque c'est un roman. Donc, on va me laisser la part d'imaginaire qu'il faut. Et ils ont été un peu remués et en même temps extrêmement intéressés, mais j'ai beaucoup de chance, hein, par la transformation justement du vécu en roman, en romanesque. Alors, c'est une famille de scientifiques. Donc, eux, tout ce qui relève de l'artistique, ça demeure une espèce de mystère qui les intéresse profondément. Donc, en fait, très vite, ils étaient capables de dépasser leurs ressentis pour profondément se demander sincèrement, mais en me disant, mais comment t'as fait pour passer de ça qui s'est passé à ça? On retrouve ça dans le roman où c'est complètement différent et en même temps, on voit bien le socle initial et ça les intéressait. Donc, j'ai quand même beaucoup de chance parce que du coup, on dépasse très vite à un moment le stade peut-être du côté bizarre pour arriver à un vrai questionnement. Donc, ils étaient contents.
Alors, est-ce qu'il y a encore une question chez les enfants? Parce que vous allez devoir partir bientôt, votre maîtresse m'a dit. Nous, on peut continuer encore quelques minutes.
Bah, vous avez écrit combien de romans sur le thème La Différence?
Tous.
Bon, alors, on accepte encore une question, ou c'est... Une dernière question. Alors là, c'est la dernière. Alors, allez-y. Parce qu'après, vous allez repartir en disant « Ah, j'ai oublié de demander. » C'est bon?
Comment avez-vous voulu de partir... comment avez-vous voulu de participer au festival du premier roman?
Bah alors dans ces cas-là, on ne veut rien. On a un coup de téléphone et on nous dit venez au festival du premier roman, ou alors vous avez gagné le prix, ou alors... mais c'est la dame là qui est là et qui... et tout le comité d'organisation du festival...
La dame, elle ne dit pas pour grand-chose, mais tout
le comité, qui prévient en fait les auteurs et qui nous invite.
Super. Alors, moi, je voulais vous demander quelque chose parce que hier, quand Clara a découvert vos petits carnets, elle a dit « Oh là là, est-ce que je pourrais trop en avoir un ?» C'est ça ? Alors, j'ai posé la question. Et donc, vous levez la main. Il y en a plusieurs qui ont envie. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est quand vous repartez, vous les mettez de côté. Parce qu'en fait, moi, je ne les connais pas en détail. Hein. Donc, vous faites une petite pile de quelques carnets, c'est ça ? Un ou deux ?
Oui,
un. Ah ben, un. Parce qu'ils veulent tous, donc vous choisissez. Je choisirai parmi les volontaires. Ça vous va? En tout cas, elle emportera avec elle un petit trésor de votre classe. Merci. À vous.